voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois
Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale.
Premier épisode, dire ce qui est. Bonsoir Céline Bardet.
Bonsoir.
On l'a entendu, vous êtes juriste et enquêtrice internationale, vous êtes spécialiste des crimes de guerre, des violences sexuelles dans les conflits, des questions de justice pénale internationale. Une juriste, mais dans une conférence TED en 2012, vous aviez commencé en disant « une juriste pas comme les autres ». Vous avez participé à la condamnation de grands criminels de guerre, notamment dans les Balkans, où vous avez vécu plus de 10 ans après avoir été la plus jeune juriste du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fonction qui vous a ensuite ouvert les portes des Nations Unies. D'abord portée vers les bourreaux, que vous avez contribué à arrêter et pour certains à mettre sous les verrous, votre expérience de terrain vous a amené à vous tourner ensuite vers les victimes de crimes de guerre, notamment les viols, et vous a conduite à fonder en 2014 l'ONG We Are Not Weapons of War, qu'on peut traduire tout simplement par « Nous ne sommes pas des armes de guerre ». Cette ONG lutte pour la reconnaissance des viols de guerre et elle aide également les survivants et les survivantes à se réparer. Est-ce que vous diriez que vous êtes animé par un idéal de justice ?
Par un idéal de justice ? Je suis pas sûre, non, le mot idéal, je sais pas. En revanche, je pense que je suis animée par le fait d'essayer de comprendre le rapport, la violence de masse et le rapport justement de ce qu'on appelle les victimes, les bourreaux et un peu cette opposition et d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe quand une partie de l'humanité violente de manière extrême une autre. C'est quoi la relation ?
Le basculement dans la violence, presque.
Le basculement, oui. Je suis le basculement dans la violence de masse. Mais je disais, je suis pas forcément dans l'idéal de justice parce que je suis pas non plus persuadée que la justice répond à tout ça. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que bien sûr que la justice est une voie de réponse et c'est celle que moi j'ai choisie dans mon métier. Mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte pour essayer de comprendre et de mieux répondre aux enjeux de violence et en particulier de violence de masse.
Votre mère était assistante sociale et puis elle a été chef du service social de psychiatrie à Vichy. Votre père était infirmier. Est-ce que ça veut dire qu'on a toujours aidé les autres dans la famille, Céline Bardet ?
Ouais, je sais pas. En fait, j'ai jamais réfléchi complètement à ça. Cela dit, si je regarde, oui, mes deux parents, d'abord mes deux parents de service public aussi. C'est quelque chose que je pense est très important dans la famille. Et oui, des métiers qui sont tournés vers les autres, quoi, aider les autres. Donc je pense que oui, et une grande partie de ma famille, en fait. J'ai aussi un oncle qui était surveillant d'hôpital. Enfin, beaucoup de personnes de ma famille ont fait des métiers ou font des métiers dans le service public et dans l'aide. Donc peut-être, oui.
C'est un début, on y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien. Vous étiez comment, vous, petite ? Vous étiez déterminée, battante, indignée, révoltée, en colère, ou plutôt réservée, timide, ou encore d'autres choses, que sais-je ?
J'ai pas beaucoup de souvenirs, en fait, de moi petite. En plus, j'ai un problème particulier parce que j'ai perdu mon père très jeune et j'ai une forme d'amnésie des souvenirs qui sont liés à mon père, mais même de manière générale, j'arrive pas à me voir, par exemple, petite.
Est-ce que les autres vous disent aujourd'hui ou vous ont dit comment vous étiez, peut-être dans votre famille ou...
Alors, maman, elle me disait, par exemple, que je souriais jamais quand j'étais petite.
Ce qui est plus vrai du tout. Hein. Vous souriez
alors,
beaucoup.
Mais oui.
Même certains, vous disent, c'est étonnant, parce que pour une juriste, vous souriez beaucoup.
Ouais, alors peut-être que si, peut-être que le fait d'avoir entendu ça beaucoup, c'est une réponse. Je sais pas, mais c'est vrai que je souris beaucoup aujourd'hui. Mais je sens que maman me disait ça. Après, ce que je sais aussi, ce que maman disait, c'est que, par exemple, j'adorais l'école. L'école me correspondait, donc j'étais très bonne à l'école. Donc, je veux dire, j'avais pas d'enjeu avec ça, petite. Donc, je pense que j'étais assez dans les... j'allais dire dans les clous, quoi. J'étais pas spécialement indignée, révoltée. Je l'ai été après. J'ai une adolescence très difficile, beaucoup plus révoltée, indignée. Mais petite enfant, je pense que j'étais assez mignonne. En tout cas, j'étais pas un enfant problématique de ce que ma mère m'a dit.
Mais vous savez si, par exemple, vous aviez déjà un sens des injustices assez poussé, assez fort, que ça vous mettait en rogne ou que ça vous peinait ou vous le ressentiez fort?
Non, après, ça dépend de quoi, enfin, à quel moment on parle aussi de l'enfance. Dans l'adolescence, oui, je me suis intéressée beaucoup à ce qui se passait autour de moi, et donc j'avais cet intérêt, donc je voyais des choses dans le monde, et donc ça m'indignait beaucoup, et je me suis engagée sur pas mal de choses plus adolescentes. Mais enfant, en revanche, j'ai des peu de souvenirs que j'ai, notamment avec mon père, parce que je me souviens pas beaucoup de choses, mais mon père me parlait de certaines choses, et j'ai un souvenir par exemple où j'étais très très petite et j'étais allée faire des courses pour mon père et j'avais ramené des oranges qui étaient les oranges Outspan à l'époque et qui ça avait mis mon père en colère. Et en fait, c'est parce que c'est les oranges qui venaient d'Afrique du Sud et il y avait un embargo sur l'Afrique du Sud, c'était à l'époque de l'apartheid, et donc mon père m'a expliqué ça. Donc petite, vraiment petite enfant, je sais pas si quand on est tout petit on est indigné. Je sais pas si ça existe. En tout cas, moi, je me vois pas indignée, mais en revanche, mon père, très petite, quand j'avais 5 ans, 6 ans, m'a expliqué certaines choses. Donc, il m'a parlé du monde, il m'a expliqué ce que c'était que l'apartheid, il m'a expliqué ce que c'était le monde, aussi, il m'a fait découvrir le monde à travers un globe où moi, j'ai réalisé que la France, c'était tout petit. Donc, j'ai eu des consciences comme ça, j'ai des prises de conscience dont je me souviens petite. L'indignation, ouais, c'est plus tard. Adolescente. Je me souviens d'un truc quand j'avais 14-15 ans, et c'était à l'époque où Mitterrand était président, et en fait Mitterrand est venu faire une visite officielle, et on nous a demandé au lycée, je sais plus si on était, non, je crois que j'étais au collège encore, et on nous avait demandé en fait d'aller tous dans la rue pour pas accueillir le président, mais je sais pas, il y avait un convoi qui passait et tout, et nous ça nous avait indignés. Non pas, on s'en fichait que ce soit Mitterrand ou quelqu'un d'autre, mais le fait qu'on nous demande d'aller, on a l'impression d'aller applaudir. Je sais pas, dans un truc de dictature à moitié d'applaudir. Et donc on avait écrit toute une lettre au proviseur du lycée, etc. Et mis à part cette petite histoire, mais je m'en souviens parce que c'était un truc assez drôle, quoi. On était vraiment hyper indignés de ça. Et après, je m'intéressais à ce qui se passait dans le monde, ouais, quand j'avais 14-15 ans. Donc il y a. Mais même ça, même à cette époque-là, je suis pas sûre que j'étais totalement indignée, quoi. Je crois que moi, quand j'étais adolescente, et même jusqu'à mes 18-20 ans, ouais, j'étais super dans la vie, j'étais consciente de ce qui se passait extérieur, le monde m'intéressait, j'avais envie de connaître le monde, j'avais envie de comprendre le monde, mais j'ai pas un souvenir, par exemple, à 12-13 ans, d'être dans une forme d'engagement, par exemple, je sais pas, sur une cause ou une autre. J'ai pas eu ça, spécifiquement, non.
Alors le monde, vous l'avez découvert, et très largement, au ouais. cours de votre carrière de juriste et d'enquêtrice internationale. Quand vous partez en mission. La plupart du temps, c'est des missions, même peut-être pour des institutions internationales, l'ONU, l'OSCE, l'Union européenne, d'autres encore. Est-ce que vous vous dites que vous êtes porteuse d'une mission ? C'est-à-dire, est-ce que justement, vous vivez votre métier comme une mission ?
En fait, non. Voilà. Je me dis pas ça, moi. J'ai ni une approche, en tout cas, moi, je la définis comme ça, mais j'ai ni une approche d'analyse de ce que je fais, ni j'ai l'impression non plus que le métier que je fais, je porte quelque chose, je porte une mission, ou c'est un engagement, ou...
Vous êtes plus pragmatique qu'idéaliste d'une certaine de ce
mais c'est pour ça que la question dit de par exemple le mot idéalisme j'allais dire il me dérange pas qu'il me dérange mais je suis pas sûre qu'il me corresponde, c'est-à-dire je vois tout le monde, on a tous envie d'un idéal, moi je c'est pas un mot qui résonne en moi, c'est pas un mot qui signifie quelque chose pour moi. Je pense que oui, j'ai peut-être plus une approche pragmatique. Je fais ce métier il défend des principes, des valeurs, c'est-à-dire je sais pourquoi je le fais. Donc dans ce sens-là, j'ai une mission, c'est-à-dire je sais ce que je suis en train de faire. Donc peut-être c'est une approche pragmatique quand je vais sur le terrain pour aller documenter des crimes, ou pour aller rencontrer des victimes, ou pour aller traquer des criminels de guerre, je fais mille et une choses. Donc je sais pourquoi je le fais. Donc dans ce sens-là, pour moi, ça c'est une mission, c'est-à-dire je pars parce que j'ai un objectif, mais j'ai pas l'impression, je me dis pas je pars parce que je fais quelque chose qui a un idéal ou de justice absolue ou je vais réparer le mal du bien. Je sais pas, je me dis pas, j'ai pas du tout cette approche-là, moi.
Ça, c'est quelque chose que vous partagez avec vos confrères et vos consoeurs, où vous avez l'impression d'être un peu à part de ce point de vue-là. La justice, c'est pas le bien, le mal, au fond, même si le quidam pense que la justice sépare le bien du mal. Ouais. La rigueur, c'est le juste de l'injuste ou le vrai du faux.
Bah, de facto, en fait, déjà, la justice, elle sépare le bien du mal, mais surtout, j'allais dire, c'est notre justice, parce que la justice occidentale, elle, à un moment, il y a quelqu'un qui est coupable de quelque chose, il y a une victime, il y a quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Après, il y a d'autres formes de justice dans le monde qui sont un peu plus, de mon point de vue, plus intéressantes, d'autres choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais par rapport, juste par rapport aux autres, je pense que, ouais, je suis un peu différente des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de collègues. Qui plus est, dont certains sont des amis, etc., qui sont vraiment dans une approche, pour le coup, d'idéal de justice, de porter des valeurs très fortes, d'aller défendre les droits de l'homme, d'aller défendre, on va dire, le droit des femmes, par exemple, sur la question des violences sexuelles ou le droit des femmes en général, en tout cas, de porter quelque chose de très fort. Moi, j'ai pas du tout ça, ce qui ne diminue absolument pas ce que je fais et la manière dont je le fais. Mais moi, j'ai pas ça, comme j'ai pas ça. Je pense aussi que c'est une manière de se mettre tout entier là-dedans. En fait, pour moi, une mission, c'est se mettre tout entier, et c'est presque aussi se faire disparaître un peu et d'aller s'engouffrer dans une mission pour aller, porter le drapeau blanc, défendre le bien et tout. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Pas du tout.
Vous n'êtes pas tout entière dans ce que vous faites.
Alors, c'est très difficile à expliquer parce que je pense que je suis entière dans ce que je fais. Je pense que je suis déterminée. Si on pose la question, par exemple, mon travail, il me prend énormément de temps, au sens, j'y consacre plutôt énormément de temps. Parce que c'est une passion, parce que il me plaît et parce qu'il a un sens, en fait. Et peut-être, je devrais même commencer par dire parce qu'il a un sens et parce qu'il me plaît. Et donc, il habite beaucoup de choses dans ma vie. Il prend beaucoup de place dans ma vie, mais je ne me dis pas, je sais pas comment expliquer ça. Je suis pas en train de me dire ah là là je fais quelque chose qui est bien, ou je défends des bonnes valeurs, ou je vais. J'ai des amis aussi qui sont très, des collègues qui sont très. Qui vont aller vraiment, qui sont dans l'approche de dire ils vont sauver des victimes, on va réparer leurs droits, on va leur donner justice, moi je suis pas là-dedans, je suis dans le fait plutôt de me dire c'est ce que je veux faire aussi, mais je ne suis pas cette victime, je ne suis pas ce coupable, ça n'est pas mon pays. Donc moi j'ai plus l'impression de me dire ok, j'ai une expertise, j'ai travaillé là-dessus et je veux mettre à profit cette expertise pour défendre ces principes-là, pour défendre ces valeurs, pour défendre ces victimes. Mais ça, peut-être que j'exprime pas mal, mais ça m'habite pas au point de remplacer qui je suis et ma vie.
Alors on va tourner les choses autrement. Est-ce que dans ce pragmatisme qui vous porte dans votre métier, vous diriez que vous êtes mu par une éthique particulière, que disons que vous le faites avec une éthique particulière?
Alors si, voilà, peut-être c'est beaucoup. Oui, c'est plus ça. C'est, je pense que déjà, mon choix de métier, c'est un choix aussi d'éthique. Là, pour le coup, on revient à la question. C'est pas une question d'idéal pour moi, mais c'est un choix de valeur. C'est un choix de principe. Donc là-dedans, il y a certainement une approche d'éthique. C'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir faire un métier qui me permet de défendre des valeurs qui sont extrêmement importantes pour moi, qui sont essentielles. Et qui même sont, oui, essentielles, en fait, c'est le mot qui a été beaucoup discuté pendant longtemps, mais essentiel au sens, c'est ma respiration, quoi. C'est-à-dire que je pense que je pourrais pas faire autre chose. Et donc, dans ce sens-là, c'est à ça que je donne un sens. Je me dis, ces valeurs-là, je veux les défendre. Donc oui, il y a une forme d'éthique, et oui, ce métier, je le fais avec une éthique profonde.
Est-ce que vous savez, c'est sûr. Est-ce que vous savez d'où ça vient, ou d'où viendrait cette éthique, si on remonte, peut-être pas au 24 avril 1972, parce que là, vous êtes né ce jour-là, c'est quand même vraiment pas le moment de penser à cette éthique, mais le bain dans lequel vous avez grandi, la famille du Bourbonnais, vous êtes né à Moulins-sur-Allier, c'est pas rien dans l'histoire.
Oui, alors voilà. Alors déjà, je suis née, je voulais pas naître, moi. Ils ont été obligés de déclencher l'accouchement de ma maman, et je me suis toujours dit, peut-être que à ce moment-là, je me disais déjà, oh là là, le monde, il a pas l'air très sympa. Je vais pas sortir du ventre de ma mère. Mais ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée, parce que je suis née très en retard et voilà, je voulais pas sortir en fait. Maman me dit, tu voulais pas sortir de mon ventre. Donc ensuite, oui, j'ai grandi dans le Bourbonnais, j'ai grandi à Moulins-sur-Allier et j'ai grandi dans un environnement déjà en soi, je veux dire géographique, qui avait une histoire très forte, parce que Moulins-sur-Allier, c'était la ligne de démarcation pendant la Seconde Guerre mondiale entre la zone libre et la zone occupée. Et à 50 km, on avait Vichy. Et maman, d'ailleurs, travaillait à Vichy. Et donc, quand on grandit petit, il y a un peu tout ça, parce qu'on avait toutes les histoires de la résistance, parce que ça a été, le Bourbonnais, ça a été un haut lieu de résistance, comme d'autres endroits en France, évidemment, mais un haut lieu où on facilitait le passage des gens entre la zone occupée et la zone libre. Et en même temps, on avait Vichy. Et Vichy, il y a toute l'histoire de Vichy qui pèse très fort aussi. En plus, Vichy, c'est quand même aussi une très belle ville. Et donc, moi, j'ai grandi un peu dans tout ça. Et donc ça m'a marqué et j'ai grandi dans des histoires quand même de résistance, et mais pas de résistance au sens héroïque des choses, mais de gens qui racontaient ce qui se passait à cette époque-là, donc des gens qui cachaient des autres, dont mes arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. On avait une ferme, ils ont caché des gens, et en fait tout ça, ça se faisait de manière complètement naturelle. Et ça,
c'est normal pour eux.
Voilà, c'était normal, c'est-à-dire que ça n'a jamais été raconté sous forme d'héroïsme. D'ailleurs, ils en parlaient pas tant que ça. Et c'était, oui, c'était normal. Et ça, je pense que c'est peut-être plus ça qui m'a marqué, parce que c'est à un moment, dans une situation critique, il y a un choix qui est fait, mais qui n'est même pas pensé, qui n'est même pas réfléchi, qui est évident. Et ça, pour le coup, ça me parle beaucoup. Et je trouve que ça me parle beaucoup aussi aujourd'hui. C'est ça, en fait, le vrai questionnement. C'est un moment dans la vie en société, c'est quoi le choix évident? Je rentre pas dans les jugements, etc., mais c'est quoi le choix évident? Humainement, c'est quoi le choix évident? Eux, ils ont été dans un choix évident qui était à très haut risque. Mais voilà. Et quand ils en parlaient après, ils en parlaient pas beaucoup, mais il y a des moments où on en parlait en famille. Ben voilà, c'était une évidence, mais mon arrière-grand-père, il est mort, j'étais assez petite, après j'avais 7-8 ans, mais j'ai quand même parlé avec lui. Mais après j'avais mon grand-père et ma grand-mère, la fille de mon arrière-grand-père, qui racontait toutes ces histoires. Et en fait, ils aimaient pas dès qu'on disait... Parce que nous, on avait un regard genre, oh là là, c'est extraordinaire, vous étiez des héros, etc. Et eux, ils supportaient pas ça, en fait. Et d'ailleurs, la discussion a s'arrêté net. Donc nous, après, on a arrêté de dire ça. Parce que nous, on voulait qu'ils nous racontent l'histoire, mes frères. Mais eux, ils avaient pas cette approche-là. Donc il y a ça. Et puis, je pense, une forme de droiture. Moi, j'étais avec des parents, j'ai perdu mon père très jeune, mais mes parents, c'est des gens qui travaillaient. Je veux dire comme plein de gens, mais qui m'ont donné aussi cette idée de, je sais pas comment dire, chose simple, genre tu travailles, gagner son argent par le travail, être honnête avec soi-même, à commencer par être honnête avec soi-même et vis-à-vis des autres. Voilà, je pense que c'est des choses simples, mais peut-être que c'est ça qui m'a marqué, je sais pas en fait.
Une famille communiste.
Alors une famille communiste.
Ça a joué d'une façon ou d'une autre.
Ouais, sûrement, ouais. Oui, oui, je pense que oui, mais justement, il y avait toute cette ambiance de d'anciens, parce qu'il y avait d'anciens réseaux de résistants qui se rencontraient. J'avais un oncle qui est décédé il y a pas très longtemps, qui a eu un rôle très très fort dans ma vie aussi, qui était communiste, et donc il y avait des discussions très politiques. Mais je trouve que je me souviens de ça quand j'étais petite, j'avais 10-12 ans, 13 ans, et c'était vraiment des discussions plus justement pas politiciennes à l'époque, c'est des discussions vraiment de, je sais pas dans quel monde on veut vivre, c'est quoi la société, c'est quoi les valeurs, etc. Donc oui, ça a marqué aussi, je pense. Et bien sûr, c'était des valeurs très humanistes, quoi. Moi, j'ai quand même, en fait, c'est ça, j'ai quand même grandi dans un milieu de valeurs très humanistes, très ouvertes sur le monde, avec que c'était évident d'être ouvert sur le monde, en fait. C'est juste ça. Donc, je pense qu'il y a de ça.
Alors, des parents aimants, deux frères.
Ouais.
Des grands-parents pas loin, puisque vous passiez vos étés chez eux, dans la ferme, ouais. Dans la ferme du hameau de Bransa, hein, dans le Bourbonnais. Exactement. Vous avez quel souvenir de ces étés?
Mais ça, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, parce que déjà, petit, on passait tous nos étés là-bas. Et donc, quand on est petit, être dans une ferme, c'est quand même... Parce que c'est une grande ferme, en plus. Donc, moi, j'ai que des souvenirs extraordinaires, parce qu'on était avec nos cousins, et on passait notre temps à se rouler dans le foin. On y avait tous les animaux, évidemment. On adorait les animaux, les vaches. Il y avait encore des chevaux de trait à une époque, etc. Plus, ça nous a appris aussi... c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on est à des discussions comme ça. Il y a comme un retour. Mais voilà, je me souviens, on faisait du beurre avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle faisait son beurre. Il y avait plein de choses qui étaient faites à la ferme aussi. Donc, je crois que ça aussi, ça m'a marqué sur le fait de, de comment faire pousser ses légumes, comment vivre un peu en sorte d'autonomie, comment cuisiner, faire les choses. J'ai aussi appris tout ça à la ferme et c'était ouais, pour nous petits, c'était juste c'était extraordinaire quoi. Et ma grand-mère, d'ailleurs dans cette espèce de lignée peut-être encore humaniste, ma grand-mère, c'est intéressant, j'adorais ma grand-mère maternelle, j'étais extrêmement proche de ma grand-mère maternelle. Et peut-être qu'on a partagé des choses aussi parce que elle, quand son père, donc mon arrière-grand-père, est parti à la guerre, il a été mobilisé alors qu'il avait 35 ans, qu'il était déjà âgé, il a été mobilisé en 39, et il a été fait prisonnier de guerre en juin 40 jusqu'à la libération en mai 45. Et ma grand-mère à l'époque, elle avait 12 ans. Et non, elle avait 12 ans quand il est revenu, pardon. Donc elle était encore voilà plus jeune, et donc elle a pas vu son père, etc. Et c'est des choses dont j'ai beaucoup parlé avec ma grand-mère, parce que elle enfant, elle a beaucoup souffert de ça. Et parce que pour elle, son père, il n'était pas là, et elle comprenait pas pourquoi. Et c'est des choses que moi j'ai beaucoup ressenti aussi, parce que moi j'ai perdu mon père. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mon père est mort de maladie, mais j'avais un lien très fort avec elle, parce que je trouve que quand on est enfant, justement, c'est très difficile de comprendre la mort ou de comprendre pourquoi un de tes parents il est plus là, pourquoi. Et ma grand-mère, elle a vécu comme une injustice. Son père est revenu après. Et j'étais très liée à elle par rapport à ça. Et c'est drôle parce que je me rends compte qu'on parle encore de justice et d'injustice. Mais moi, la mort de mon père, j'ai vécu comme une forte injustice aussi. Donc j'avais un lien très fort avec elle là-dessus. Et quand on était à la ferme, en plus, il y avait quelque chose de très... C'est dingue parce que ma grand-mère, elle a élevé ses enfants. Donc ma mère et les deux frères de ma mère. Et ensuite, elle est devenue famille d'accueil. Donc elle a accueilli des enfants qui venaient de familles difficiles où les parents pouvaient pas s'occuper d'eux. Bon, il y a deux choses intéressantes, c'est qu'il y a eu un moment un frère et une sœur qu'on adorait, qui s'appelle Carl et Sylviane, je me souviens, et qui étaient noirs. Et c'était la première fois que dans le village, à Saint-Poncin, il y avait des noirs. Et donc c'était un espèce d'événement. Et nous, on a grandi avec ça. Et pour revenir sur l'éthique, et peut-être ce qui vous marque quand vous êtes enfant, c'est que ça aussi, par exemple, pour ma grand-mère, c'était juste normal de faire ça. Parce que elle disait toujours, moi j'ai une ferme, j'ai plein de... Elle avait l'impression d'être très riche, ma grand-mère, parce qu'elle avait une ferme. Elle avait de la place, et donc d'accueillir des gens, c'était normal.
Et ça résonne avec une phrase que vous répétez, votre père, celle-là, vous vous en souvenez, Céline Bardet, on est responsable de ce qu'on n'empêche pas.
Ouais. Mais ça, c'est plus... Ouais, ça résonne, et puis ça, c'est plus... Ça, c'est difficile. Mais cette phrase, elle m'a marquée, parce que j'étais très petite, et j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans, donc... Et je trouve que cette phrase, elle est tellement... Elle a un côté écrasant, presque. Et en même temps, elle dit tout. Et elle est restée... J'ai presque l'impression qu'elle m'a été posée au fer rouge, quoi. Comme s'il me l'avait... Évidemment, quand il me l'a dite, je pense qu'il pensait pas qu'il allait mourir. Ça, c'était bien avant qu'il soit malade. Elle m'est restée et je me dis, c'est comme un tatouage à vie. Et cette phrase, pour moi, elle veut tout dire parce que c'est ça. C'est en fait, on a une responsabilité comme être humain, en fait, tout simplement, comme citoyen. Et oui, on est responsable de ce qu'on n'empêche pas. On est responsable de choses qui se passent à côté de nous, sur lesquelles on pourrait agir et qu'on ne fait pas. Et ce n'est pas une phrase de morale ou de jugement. Ou de dire on doit résoudre tout. Non, c'est pas ça, mais c'est vraiment ne jamais perdre de vue. Mon père, c'était ça qui m'expliquait. Il me disait toujours ne sous-estime pas ta puissance. Et je trouve ça très fort parce que en tant qu'être humain, bien sûr qu'on a une puissance en tant que personne.
Ça veut dire qu'il vous a donné confiance en vous aussi.
Peut-être, sûrement même. Sûrement, même si la confiance en soi, c'est toujours difficile à avoir. Mais oui, je pense. Ça, ce sont des phrases très fortes. Mais ne sous-estime jamais ta puissance, oui. C'est extrêmement fort. Parce que en plus, je pense qu'il me l'a dit évidemment à moi, bien sûr. Mais c'est aussi dans l'absolu. C'est-à-dire, je pense que... Parce que lui, il avait une approche très absolue des choses. Il parlait souvent des choses, du monde. Et c'est ça, c'est aussi en tant qu'être humain, oui, chaque personne ne sous-estime pas ta puissance. On a une puissance, chacun et chacune, phénoménale en fait, dans la manière dont on peut approcher la vie. Enfin, moi, je crois.
Et alors, comment arrive le droit, Céline Bardet? Par hasard?
Par une erreur totalement, par un sens interdit. Non, en fait, il y a un truc assez drôle. D'abord, j'étais très nulle en maths au lycée et j'avais un prof... J'avais un prof qui était très drôle, que j'exaspérais vraiment, parce que vraiment j'étais nulle, hein, mais vraiment on essayait de m'expliquer, et donc je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé avec les maths, donc à la fin lui de désespoir, il faisait des blagues, voilà, n'empêche que ça m'a quand même un peu traumatisée, et donc quand j'ai eu mon bac, ma première pensée a été, mais qu'est-ce qu'il y a comme étude où il n'y a pas de maths? Mais vraiment, quoi. Mais même pas une heure de maths, quoi. C'était pas possible. Donc, voilà. Donc, j'avais regardé et il y avait deux choses. Il y avait le droit et il y avait Sciences Po. Mais Sciences Po fait passer un concours et tout ça. Il y avait Sciences Po. Et j'avais ma copine Nathalie, qui était ma copine d'enfance, et on s'est dit, ouais, on va passer Sciences Po. Et en plus, j'ai le métier de journaliste. Ça m'intéressait, tout ça. Et puis là, étonnamment, parce que ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu ce qu'on faisait avec mes frères, qui ne s'est jamais mêlée de rien. Ma mère, elle est pas du tout intrusive, maman. Elle est très aussi en confiance, c'est qu'elle nous fait beaucoup confiance, etc. Et c'est la seule fois, ça m'a marquée, parce que là, elle m'a dit, elle est intervenue, où elle m'a dit, non, mais je pense que tu devrais faire du droit. Et je sais pas d'où. Et d'ailleurs, je lui ai reposé la question et elle me dit, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Et elle m'a dit non, mais et elle m'a vraiment poussée en me disant, écoute, commence par le droit. Fais au moins une année de droit et après on verra si tu veux absolument faire Sciences Po et tout. Et j'ai fait une année de droit et la première année de droit m'a passionnée.
C'était à l'université de Rouen à ce moment-là ?
Non, alors j'ai fait ma première année de droit à Clermont-Ferrand et ensuite je suis partie à Rouen.
Puis l'Institut des hautes études internationales à l'université Panthéon-Assas. Ouais. Au moment où vous commencez votre maîtrise, la guerre en Bosnie éclate, on est en 1992. Deux ans après, c'est le génocide de Rwanda. Donc vous faites vos études de droit avec ces deux événements déterminants, je pense, ouais. Pour la suite. Est-ce que vous diriez rétrospectivement que peut-être que ces deux événements vous ont décidé à faire du droit international ?
Alors déjà, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, particulièrement le conflit dans les Balkans. Ça, c'est certain que ça m'a fait basculer dans le fait de me dire... Je me souviens très, très bien.
Vous avez une vingtaine d'années, hein,
ouais.
23, 25 ans. Oui,
quand ça commence, ouais.
20, 25 ans.
C'est le début de mes études, le début du conflit dans les Balkans. Et en fait, je me souviens très, très bien que je me suis dit, OK, en fait, je voudrais comprendre le droit international. Et donc je me suis dit il faut que j'aille vers un cursus qui me permette de comprendre ça, sachant que je me souviens vraiment très bien que quand j'ai commencé à me dire ça, je devais être en deuxième année de droit et qu'on pouvait pas se spécialiser avant. Et même nous à l'époque, la maîtrise était à peine spécialisée. Aujourd'hui, on peut se spécialiser dès la troisième année. À mon époque, qui paraît très loin, on pouvait pas quoi. Donc c'est l'idée m'est restée et je l'ai fait à la fin. Donc oui, ça m'a amené à m'intéresser au droit international.
Et en 1997, vous vous êtes lancé dans un mémoire de recherche sur un certain Drazen Erdemovic, premier à avoir été condamné par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et c'est ce qu'on verra demain, Céline Bardet. Merci beaucoup.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Céline Bardet, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Alexandra Bergel, avec la collaboration de Daphné Abgral, une émission de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application de Radio France.